Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h41, merci d'être avec nous. Nos éditorialistes du jour, 0826-300-300, Françoise Degout, Elisabeth Lévy, Eric Revel dans un instant. En attendant, qu'est-ce qui fait parler ce matin? Une revue de presse avec Benjamin Glaize.
Oui, bah, y a quelque chose de particulièrement intéressant. Écoutez bien, parce que c'est surprenant. Dans le contexte du Covid, ce sont ces chiffres du Parisien aujourd'hui en France sur les escroqueries au chômage partiel. Écoutez.
Hein. Mais comment finalement les fraudeurs ont détourné 225 millions d'euros des caisses de l'État? Bah oui, c'est une somme énorme. Alors certes, une bonne partie des fonds a pu être récupérée, mais pour autant, ce sont bien 53 millions d'euros qui sont partis en fumée. Alors des groupes criminels ont même usurpé l'identité
de
7000 entreprises, voilà, pour récupérer finalement ces aides illégalement. Alors on nous dit que la police judiciaire et la gendarmerie mènent actuellement une soixantaine d'enquêtes à ce sujet. À côté des escroqueries, il y a l'histoire de ceux qui se mettent tout simplement hors la loi pour survivre, c'est-à-dire cette fois-ci dans la Provence, à Marseille, des bars, des restos, mais aussi des coiffeurs proposent leurs services clandestins aux clients fidèles, bravant pour cela les règles du confinement et pour continuer à vivre. Autre bravade au confinement, plus surprenante, c'est dans Vaucluse matin, les messes à domicile, bah oui, les messes classiques sont interdites. Alors, eh bien, un prêtre vauclusien a eu l'idée de proposer des offices dans le secret des maisons avec ses fidèles.
Et puis, ah bon?
Bah oui, effectivement, c'est assez surprenant, mais comme quoi, ça donne des idées. Confinement. Et puis Sud-Ouest, de son côté, relaie plus sérieusement le cri d'alarme des patrons girondins. Les liquidations d'entreprises sont en hausse de 18%. Les filières restauration et hôtellerie, forcément, on le sait, sont aux abois. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie juge la situation alarmante, notamment pour les commerces dits non essentiels.
Oui, et puis il y a le coronavirus qui est bien sûr aussi à la une de vos hebdomadaires, puisque nous sommes jeudi.
Oui, avec la question du vaccin, notamment de l'après-vaccin. Eureka, s'exclame Le Point, après les annonces de premiers vaccins prometteur à venir, on verra pour la suite. L'espoir, enfin, titre l'Express de son côté, qui raconte les coulisses de la bataille planétaire du vaccin, notamment cette anecdote plutôt surprenante, celle de la guerre du froid, qui risque apparemment de donner un sérieux coup de froid, effectivement, aux logisticiens pour le vaccin de Pfizer, qui aurait besoin, on l'a déjà dit, d'être conservé à la température de moins 70 degrés. Bien, le ministère de la Santé a d'ores et déjà commandé 50 énormes congélateurs nécessaires pour une telle température, des machines quand même estimées à 500 000 euros l'unité, ça fait un sacré prix, avec de possibles problèmes de livraison dans les temps, puisque tous les logisticiens de la planète nous ont appelé, raconte un responsable de l'entreprise qui vend ces congélateurs, sauf qu'ils n'ont aucun stock, et pour cause, il s'agit d'un micro-marché destiné avant tout à l'industrie du thon au Japon. Ah. Voilà, comme quoi ça s'annonce très compliqué, en fait. Voilà.
Bon, eh ben écoutez, très bien, on va suivre cette histoire. Il y a d'un côté les congélateurs, de l'autre les réfrigérateurs, hein, donc selon certains vaccins. C'est à suivre tout ça, parce que c'est loin d'être terminé, hein, cet épisode, évidemment, cette histoire et ce feuilleton, pardon, du vaccin. Nous poursuivons notre revue de presse. On s'intéresse aussi à la Dépêche du Midi ce matin avec Philippe Rioux, éditorialiste qui est avec nous. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous.
Vous avez un grand dossier sur le lancement de la 5G, parce qu'on rappelle que hier c'était le déploiement à titre expérimental qui est lancé. Hein.
Ben exactement, le lancement de la 5G a démarré hier avec cette autorisation pour les opérateurs d'activer ce nouveau réseau ultra rapide. Alors c'est un lancement qui sera très progressif, hein. C'est uniquement dans certaines zones où avaient lieu, vous le disiez, les expérimentations qui nécessitent d'avoir le bon smartphone, compatible, le bon forfait. Et il faudra vraiment attendre plusieurs mois, et peut-être sans doute 2022, pour que la 5G soit vraiment opérationnelle pour les particuliers et pour les entreprises avec de nouveaux services, hein, sur la voiture connectée, la télémédecine, la logistique, tout ça. Et ce lancement d'hier s'est fait quand même vraiment en catimini, car la 5G est entourée de controverses, de craintes. Alors, d'un côté, on a, c'est vrai, les partisans, hein, qui ne veulent pas que la France prenne du retard. Et parmi eux, Emmanuel Macron, qui avait qualifié d'amiche, on se rappelle, ceux qui émettent des critiques. Et de l'autre côté, on a des associations, des élus, la Convention citoyenne sur le climat, des maires de gauche et écologistes qui, eux, demandent un moratoire sur ce déploiement de la 5G jusqu'en mars 2021, puisque c'est à cette date qu'un rapport de l'ANSES sera rendu sur les effets sanitaires des ondes de la 5G. Et alors, entre ces deux camps, qui se parlent le peu, hein, la 5G est devenue vraiment un terrain de bataille avec des théories conspirationnistes. On se rappelle que certains avaient assuré que la 5G favorisait le coronavirus, mais aussi des actes de sabotage avec des antennes incendiées ces derniers mois. Mmh. Alors, on peut se rassurer quand même, tout le monde sait que les mêmes débats avaient eu lieu lors du passage de la 3G à la 4G, et aujourd'hui, bon, personne ne voudrait revenir en arrière.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est assez complexe, hein, parce que, bon, évidemment, il y a ce besoin d'accélérer le développement numérique pour certains, pour pouvoir travailler notamment avec ce télétravail de plus en plus, hein, sur l'ensemble, en fait, du territoire. Encore faut-il qu'il soit accessible. Et puis, il y a les doutes et les incertitudes autour des ondes, alors qu'ils ne sont pas ionisantes. On avait un invité hier qui était avec nous à 9h15, qui quand même met en garde, puisque c'est vrai qu'on ne connaît pas encore il y a une enquête, hein, qui a été lancée, hein, Philippe,
par les conséquences.
Oui, qui sera connue dans l'ANSES
en
février-mars.
Ouais.
Dans un an, exactement. Oui. C'est vrai qu'on ne connaît pas vraiment, on n'a pas assez de recul, à vrai dire, pour dire s'il y a un impact ou pas. Alors, il y a le principe de précaution qu'invoquent ceux qui voudraient un moratoire. Oui. Et puis après, il y a l'aspect international, on va dire, où le déploiement de la 5G, c'est vraiment capital, parce que c'est des services nouveaux qui vont arriver, des services qui seront utiles. La télémédecine, c'est utile, sauf que dans des régions, il y a des déserts médicaux. La logistique, ça permet de faire des économies aussi dans le transport, en gérant mieux les flux. Donc, il y a des gros avantages et aussi des doutes. Et ces doutes, il faut les lever pour établir la confiance des consommateurs.
Oui, complètement. Donc, grand dossier très complet sur la 5G ce matin à lire dans la Dépêche du Midi, ou pour ceux qui n'ont pas le journal ou qui sont beaucoup plus loin, évidemment, ils peuvent aller le voir sur le site, hein, parce que évidemment, c'est vrai. Aujourd'hui, la presse écrite, c'est beaucoup évidemment en ligne. Et j'imagine aussi, hein, d'ailleurs, Philippe, que il y a eu beaucoup d'abonnements pendant cette période du coronavirus, quoi. Et ça continue, quoi.
Bien sûr. Nous avons été handicapés, comme beaucoup de nos confrères, par les confinements qui ont diminué. Mais c'est vrai que le numérique a pris beaucoup d'ampleur. Il y a une enquête qui est parue hier, je pense, qui disait qu'effectivement les Français sont tournés vers l'information en ligne. Oui. Et évidemment, on en profite.
À condition d'avoir du débit aussi.
d'avoir du débit, bien sûr.
voilà. Non, mais c'est ça.
La boulette. Sinon, il y a les pigeons voyageurs. Hein, c'est tout ce qui nous reste.
Ah, les pigeons voyageurs, oui. Merci, Philippe Rioux, éditorialiste à la Dépêche du Midi. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.
Et ce matin, c'est la suite du petit déjeuner de l'actu. Bah, Françoise de Gaulle, Elisabeth Lévy, Éric Revel sont avec nous. Et puis vos appels, comme tous les matins, vous voulez débattre. 0826-300-300, c'est simple.
Oui, bien sûr, avec plusieurs sujets sur la table, bien sûr, sur le déconfinement, à pas compter, comme le disent certains. C'est-à-dire que qu'est-ce que va dire Emmanuel Macron la semaine prochaine, hein. Évidemment, ça ne doit pas être simple à prendre comme décision, avec les avis des uns et des autres. Il y a dans l'actualité aussi, toujours les remous autour du projet de sécurité globale. Il y a ces emails, ces échanges quand même aussi de mails entre Samuel Paty et sa direction et des échanges avec les professeurs. On l'a vu et vous nous l'avez rappelé très justement tout à l'heure, Elisabeth Lévy. Peut-être un mot, et donc évidemment les questions aussi autour du Black Friday. Hein, Éric Revel nous l'a souligné en fait tout à l'heure. Peut-être sur ces remous quand même encore autour de ce projet de loi sécurité globale, Françoise de Gouard. Est-ce que c'est déjà derrière nous ou encore
Non, je ne crois pas. Je pense que c'est des véritables remous qui vont aller loin. Je regardais ce matin, je regardais sur Twitter, on en pense qu'on veut, moi, ce n'est pas ma cam, hein, mais le rappeur Booba, qui est quelqu'un qui a une grande influence, 5 millions de followers, en tout cas une influence dans une certaine partie de la population, lui dit « Vous êtes en guerre contre le peuple », donc il ne fait pas un message à la rappeur, il fait un message politique, en gros il reprend les arguments d'une partie de la gauche. Donc après on peut considérer que cette loi ça va passer crème. Moi mon sentiment c'est que ça passera pas crème, parce qu'il n'y a pas simplement que la question du floutage des policiers, il y a également la question des drones, l'article 22 qui est un article qui est très discuté également. Donc on peut considérer que tout ça c'est de l'habillage, de l'agit-prop de la part de l'opposition, mais moi je crois absolument pas. Je pense que ça touche, et je suis assez frappé de voir tous les chantre de liberté publique qui toute la journée nous bassine avec l'idée que oh là là notre liberté est confinée, etc., et qui comprennent même pas en réalité ou ne veulent pas voir à quel point cette loi liberticide, je fais gaffe avec ce genre de mots,
c'est ça.
Mais en tout cas elle met des sacrés coups de
canif. Elisabeth et Eric. Elisabeth.
Non mais moi ce que je constate, si vous voulez, c'est qu'une fois de plus vous avez une sorte de petit microcosme qui est en décalage complet avec la société, et en l'occurrence tout ce foin si vous voulez, autour de l'article sur le
24.
Enfin, j'en ai... Comment ? Oui, l'article sur l'article 24. Enfin, j'en ai parlé hier.
Ouais.
Si vous voulez, c'est quoi le problème ? En quoi on a besoin de montrer les visages des gens pour comment dire, pour montrer ce qui se passe ? Non, mais surtout l'idée, si vous voulez, qui est en train de se répandre, qu'on serait dans un état policier ou la police. Écoutez, le grand, ce que voient les gens, ce qu'on voit, c'est quoi ? C'est que la police est agressée en permanence et que les policiers ont peur. Moi, je l'ai dit hier. Ce qui me frappe là-dedans, c'est pas du tout que l'État fasse peur. Parce que de temps en temps, il serait bon que l'État fasse un peu peur, oui. Le problème, c'est que c'est le gendarme qui a peur. Donc, franchement, je veux dire, ça me paraît tellement loin, franchement, de ce que vivent les gens aujourd'hui que.
Éric Revel,
Éric. Je ne crois pas que le rappeur Booba et que les grandes. Je ne crois pas que le rappeur Booba a certainement une influence, mais je ne crois pas que cet homme.
Mais il en a une influence immense, enfin, Elisabeth.
Alors, Éric Revel.
Vous faites que ça, finalement. Éric, que Françoise parle. Ça maintenant, hein, c'est, ça va pas passer crème.
Non,
tout ça,
c'est crème, ça fait 50 ans que je le dis. Crème, c'est pas jeune, ça c'est vieux. C'est les vieux.
Ça ne va pas passer comme une lettre à la poste. Ouais. Je pense que c'est. Voilà. Moi, je continue à avoir des mots comme cela, mais bon, c'est
Mais c'est quoi votre sujet là ce matin? Passer crème, c'est une expression que.
Passer crème.
Non, passer crème, vous savez, ça fait 30 ans.
Il y a plein de gens qui ne comprennent pas. Alors peut-être que les gens.
Ah bah allez, Françoise, écoutez, Éric.
Tout le monde ne comprend pas, pardon.
Bon, allez, oui.
C'est pas grave, c'est juste un détail, Françoise.
C'est pas John. Non, mais parce que ça va dans une logique générale de votre raisonnement me concernant.
Sur le fond, bon, moi je vais vous dire ce que je pense de tout ça, c'est que Gérald Darmanin, voilà, il fait un petit peu son petit Sarkozy, c'est-à-dire qu'il veut créer une loi supplémentaire. Alors, Françoise a raison, attention, quand on emploie le mot de liberticide, bon, tout ça est quand même un peu touchy, mais sur le fond, il y a plein de lois qui existent qui ne sont pas appliquées, parce que vous avez un pouvoir judiciaire qui ne les fait pas suffisamment appliquer. Donc, on veut créer une loi supplémentaire dans un contexte social et de confinement qui est quand même très particulier, alors qu'on ne fait pas respecter les lois qui existent. Et puis, moi, je pose juste une question, alors là, je vais pas avoir un réflexe corporatif. Certains vont peut-être me reprocher, mais quand même, est-ce que l'affaire Benalla aurait eu lieu si on n'avait pas filmé, à l'insu de son plein gré, des agissements de ce faux vrai policier qui était Alexandre Benalla ? C'est quand même une question qu'on peut se poser, Elisabeth et Françoise. Et rien que pour ça, ça mérite quand même qu'on s'interroge sur cet article 24, oui, pardon. Et puis, sur l'affaire des drones, c'est vrai que ça fait un peu balisé, mais quand j'entends des arguments qui m'expliquent que, oh là là, on va surveiller les manifestants qui n'ont pas forcément envie qu'on révèle leurs opinions politiques. Mais pardon, quand vous manifestez pour une cause, vous affichez vos opinions politiques, repérées ou pas par un drone.
On
écosse les petits pois juste pour écosser les petits pois. Maintenant, où Françoise, à mon avis, n'a pas tort, c'est qu'on met le doigt dans un drôle d'engrenage. Voilà.
Ouais.
Sur les drones, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que effectivement, il y a quelque chose qui peut empêcher les gens quand vous êtes droné, parce qu'on va inventer ce verbe maintenant. Voilà, vous êtes fiché, c'est utilisé par la préfecture de police, même si vos coordonnées ne restent que 30 jours selon l'amendement qui a été déposé. Je pense que c'est quelque chose également qui peut ne pas inciter les gens à aller manifester alors qu'ils ont envie de manifester. Donc moi, je pense pas que ce soit des petits sujets qui sont hors de la préoccupation. Excusez-moi. Moi, je ne suis pas dans l'idée que nous vivons en dictature. Je dis simplement que nous avons un amoncellement d'autoritarisme qui ne peut pas continuer comme ça. Dans tous les coins. Nous sommes gouvernés depuis un mois par un conseil de défense. Je suis désolée de vous le dire. C'est un article 16 qui ne dit pas son nom. Ok ? Nous sommes gouvernés par un conseil de défense depuis un mois. Nous avons cette loi qui doit être regardée, J'entends tous les arguments en disant que on interdit à personne de filmer, mais c'est pas vrai.
Bon.
Donc on a
Elisabeth,
quand même, il y a quelque
Elisabeth,
chose qui me dérange dans les
Elisabeth,
libertés publiques.
Ouais. Elisabeth.
Non mais je rappelle qu'on n'interdit pas de filmer. Il faudrait de temps en temps que les journalistes acceptent aussi d'être critiqués. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas à eux. Il ne s'agit pas les agissements comportements répréhensibles des policiers doivent être réprimés et sanctionnés. Ouais. C'est-à-dire, à ma connaissance, j'ai relu cet article, il n'est pas question d'interdire de filmer, donc vous montrez parfaitement ce qui se passe. Simplement, ce que les journalistes aiment faire, c'est être des justiciers, c'est rendre la justice eux-mêmes. C'est décidé, bah oui, vous n'êtes pas d'accord, c'est décidé à partir d'une image. C'est décidé à partir d'une image, si vous voulez, d'en donner aussi l'interprétation, la sanction, la culpabilité. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec l'infirmière, écoutez.
Ouais,
qu'on diffusait les journalistes. Oui. Qu'on diffusait... Françoise, ça suffit maintenant. Ouais, je finis la phrase. Ouais. Que ça vous plaise ou pas. Ouais. Qu'on diffusait les journalistes. Ouais. Non mais c'est... Qu'on diffusait les journalistes. Eh bien, ils ont diffusé une scène, d'accord, où on voyait l'infirmière traînée par les policiers. Il a fallu que ce soit les flics eux-mêmes qui, le soir, diffusent la première partie où on voyait qu'elle les insultait.
Je suis d'accord avec vous. Mais c'est un cas pour l'ensemble des vidéos qui ont montré toutes les violences policières pendant les gilets jaunes et pendant la manif des retraites.
Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Qu'est-ce qui est le plus grave dans notre société?
Mais moi ça m'inquiète.
Dites-le-moi.
Mais écoutez, excusez-moi.
Je voudrais vous poser une question.
Ouais. Allez-y.
D'accord.
Allez-y.
Oui.
Posez-la.
Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Qu'est-ce qui est le plus inquiétant d'après vous aujourd'hui? C'est l'incroyable montée des agressions de policiers ou c'est les violences commises par des policiers?
Combien
de policiers ont été blessés?
Allez, Je peux répondre.
Oui, bah oui,
la violence sur les policiers est absolument inquiétante, mais elle n'est pas du fait. Personne n'est capable de me démontrer aujourd'hui que des policiers ont été lynchés à cause des réseaux sociaux et à cause des vidéos.
À Manioville?
Non, une fois. Écoutez-moi, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, Elisabeth, j'ai pas à faire des choix binaires. J'en ai ras-le-bol de ce débat binaire. Je suis comme vous, je respecte autant la police républicaine que vous, mais la police républicaine, par définition, doit être exemplaire de A à Z. Donc, ça m'inquiète la violence sur les policiers, mais les policiers sont là pour protéger les citoyens. Ça m'inquiète tout autant les violences policières. Je sais que vous n'aimez pas ce mot, mais j'estime que la façon dont le maintien de l'ordre s'est passé depuis 2 ans dans ce pays, c'est inacceptable. Et quand on est un républicain, on devrait s'en émouvoir. Voilà. Bon. Et je suis autant républicaine que vous.
Merci de cette leçon de maintien.
Mais vous êtes je suis autant républicaine que vous, ma chère. Je vous le dis. Hein.
Bon, donc, Elisabeth, le mot de la fin, et puis peut-être Éric Revel, parce qu'il n'y a pas une personne qui a raison plus qu'une autre.
Bien sûr, voilà.
Moi, je suis assez étonné qu'on n'ait pas du tout parlé de la loi qui ne s'appelle plus séparatisme, d'ailleurs, parce que Éric a raison, on ne fait pas respecter nos propres lois. Mais ce qui m'inquiète beaucoup plus, moi, que la loi sécurité globale.
Sécurité globale.
Floutage de gueule, c'est ça, oui.
Cette loi qui ne s'appelle plus, vous l'avez dit,
dont
le nom, si vous voulez, dont la dilution sémantique indique.
Bon, on aura l'occasion.
Une espèce d'impuissance.
Oui, on va avoir l'occasion d'en reparler, ma chère Elisabeth, puisque évidemment, c'est en vue du 9 décembre. Hein, donc, cette proposition, et donc, il y a encore 15 jours, 3 semaines et beaucoup d'autres sujets. Merci, on va en parler dans un instant également sur le confinement avec des témoignages à venir assez forts. Hein, et notamment Jean-Paul Pelleras, écrivain journaliste, il dit « Mais arrêtons, mais qu'est-ce qui se passe aussi avec le monde rural du virus ou de l'oubli qui sera le plus meurtrier ?» Parce que évidemment aujourd'hui, il y a besoin d'une attestation pour aller dans son jardin quasiment. Ça, c'est vrai et c'est assez édifiant ce qui s'y passe. Il sera avec nous. Et ensuite, Didier Van Cauwelaert, qui sera avec nous tout à l'heure, qui a écrit au président de la République et qui a dit qu'il était prêt à payer en fait des amendes, notamment pour les librairies qui faisaient, entre guillemets, de la résistance en restant ouvertes. Il sera avec nous tout à l'heure à 9h15. Et les auditeurs, je sais qu'il y a Lionel qui est en ligne, on va le prendre dans un instant.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h06, merci d'être avec nous, on espère que tout va bien ce matin. Vous nous appelez bien sûr au 0826-300-300 avec nos invités ce matin, Patrick.
Oui, Jean-Paul Pelleras qui va être avec nous dans un instant, écrivain journaliste, pour nous parler en fait de la ruralité et ce mode de confinement et les attestations en monde rural. Mais il y a aussi Lionel, j'avais promis, qui est en ligne avec nous. Au 0826-300-300. Bonjour Lionel.
Bonjour à tous.
Bon,
bonjour.
Vous vouliez réagir sur l'actualité. Alors,
sur
vous avez vu, sur les commerçants plutôt, hein, que sur la sécurité globale, le sujet qu'on vient d'évoquer avec Éric Revel, Françoise Degois et Elisabeth Lévy. Vous avez vu, c'est parfois chaud. Hein, c'est pas toujours évident de mettre d'accord. Hein. Bon, Lionel, alors vous, quelle est votre réaction?
Ben moi, c'est à propos des petits commerçants, parce que pour l'instant, on fait rien réellement pour eux. On a promis beaucoup de choses. Moi, je connais une commerçante qui tient un restaurant dans une grande surface. La plupart du temps, c'est des loueurs étrangers. Et elle-même, elle a 10 000 euros de loyer par mois. Hein, c'est un exemple. Elle est obligée de les payer, sauf que son restaurant ne peut pas faire le click and go, ne peut pas faire l'emporter, puisqu'il y a des McDo à côté, elle a une concurrence énorme. Ouais. Et derrière, on lui oblige quand même à payer ses 10 000 euros. Un autre entrepreneur qui vient de commencer, comme il n'a pas encore de déclaration, il n'a aucune trace pour dire combien il a de pertes. Pareil, il ne reçoit aucune aide. Et on attend combien de personnes comme cette Belge qui vont mettre fin à leur vie parce qu'ils ont tout perdu, une entreprise pour ces petites entreprises. Ouais. C'est toute leur vie, c'est toutes leurs économies, c'est toute leur famille qu'ils mettent dedans. Ouais. Et ces alarmes-là, on les entend pas. On préfère parler du Black Friday repoussé encore pour ces gros commerçants qui, eux, s'en fichent. Ils peuvent fermer. Là, je viens d'entendre pour Renault. Encore une fois, c'est 5000 personnes qui vont se retrouver au chômage. Les grosses entreprises, style Leclerc, Auchan et autres, pour pas citer de nom, hein, vont pouvoir fermer quelques magasins, mettre des gens au chômage pour pouvoir refaire des économies et se refaire une santé. Moi, ça me scandalise. Et qu'est-ce qu'on attend encore une fois? On attend de fermer toutes nos petites entreprises pour étouffer encore la ruralité, puisque nous, en ruralité, on ne vit que par ces petits commerçants.
Ouais,
ces petits commerçants qu'on nous ferme.
C'est vrai. Bon, on donne beaucoup la parole, hein, justement, à l'ensemble des commerçants. Nous, on l'avait ce matin, un représentant, justement, de l'ensemble, en fait, de ces commerçants de détail et spécialisés. Et on verra aussi, tout au long de ce grand matin et pendant cette crise, on essaie de les accompagner. Et on comprend, en fait, hein, c'est cela, et on leur donne la parole, et on essaie avec que quand c'est possible aussi
de trouver
des solutions. Mmh. Hier, par exemple, Lionel, il y avait François Palombi, qui est le représentant aussi de commerçants, de petits commerces, hein, où ils sont beaucoup représentés dans le monde rural, qui était avec nous et qui a même craqué hier soir. Il était dans les vraies voies. Il est à bout, comme vous le dites, hein, Lionel. Et écoutez hier soir ce qu'il répondait justement.
Pensez à ces commerçants qui ont tout mis dans le jeu. C'est des gens qui sont, j'en suis ému. Il y en a qui crèvent, c'est pas normal. La solidarité doit s'appliquer plus que jamais. Et chers consommateurs, n'allez pas chez Amazon prioritairement, privilégiez les commerçants. Le commerce physique ne
voilà,
doit
donc,
pas être
écrasé. C'était François Palombi, donc à l'occasion du débat autour d'Amazon et du Black Friday, est-ce qu'il faut reporter ou pas. Donc on comprend évidemment toute la détresse dans ses propos, parce que c'est quelqu'un de solide qui est quand même depuis des années à la tête, en fait, de commerce et puis également de fédération de commerçants, hein, Lionel. Merci d'avoir été avec nous. Et on en reparlera aussi des petits commerces tout à l'heure avec Didier Van Kovelaert, hein, dans quelques minutes, puisqu'il a pris aussi un peu leur défense. En proposant de par exemple de payer une amende d'une librairie à Cannes qui veut rester ouverte. Jean-Paul Pelleras est avec nous.
Oui, écrivain, journaliste, ancien syndicaliste agricole, et il va revenir sur le confinement justement en zone rurale et les attestations. Justement, est-ce que ce serait pas double peine?
Oui, Jean-Paul Pelleras, bonjour.
Bonjour, vous m'entendez bien?
Oui,
on vous entend et on vous voit, effectivement. Oui, parce que vous avez écrit une tribune où vous dites que, dans la ruralité notamment, qui du virus ou de l'oubli sera le plus meurtrier? Parce que vous avez le sentiment que aujourd'hui, autant ça peut se comprendre pour les attestations, effectivement, en ville, dans des zones très très peuplées, mais là, vous dites que ce n'est pas du tout adapté, en fait, au monde rural, en règle générale.
Non, c'est-à-dire que c'est un peu la double peine, parce que nous sommes déjà très isolés. Je parle des communes ici, bon, par exemple dans les Pyrénées, sur l'Aubrac, c'est pareil. Enfin, bon.
Vous êtes dans les Pyrénées, Pyrénées orientales.
Oui, là, c'est ça, dans les Pyrénées orientales, dans un petit village de montagne. Ouais. Je signale au passage que nous sommes dans la communauté de communes qui était jusqu'en juillet présidée par Jean Castex, que nous connaissons bien.
Oui. Mm-hmm.
Donc, tant qu'à faire, ce message, ma foi, lui sera également adressé. Depuis qu'il est Premier ministre, on n'a pas vu de différence. Hein. Il est Premier ministre de la France, c'est pas des Pyrénées orientales, n'est-ce pas?
Ouais.
Donc, aujourd'hui, nous avons des commerces qui subissent de plein fouet ce confinement. En plus, nous avons un mauvais réseau au niveau des communications Internet, téléphonie. Et nous avons également, alors ça c'est un véritable problème, nous sommes un désert médical et tout ça cumulé au bout d'un moment, il y a des commerces aujourd'hui qui étaient déjà à bout à cause de l'âge, parce qu'il n'y avait pas de repreneurs, parce qu'il y avait une paupérisation, une désertification. Et ces gens-là, il est certain que là, tout est fermé. Bon, ben, ils ne réouvriront pas. Hein. Ce n'est pas la peine de se raconter l'histoire. Quoi. Et le pays va finir de se dévitaliser petit à petit. C'est ce qu'on rencontre avec à peu près l'ensemble des activités. Et puis, nous avons, à quelques kilomètres d'ici, des pistes de ski qui ont été fermées tout l'hiver dernier parce que la 116 qui traverse la nationale et qui traverse est éboulée. Ces gens-là ne savent toujours pas ce qu'ils vont faire. Il y a vraiment un impact sur le commerce avec l'induction que cela représente, c'est-à-dire l'agriculture. Ici, oui. En pleine, les vignerons ne savent pas comment ils vont vendre leur vin. Vous voyez, c'est toute une ramification qui, quelque part, est suscité par ce confinement et qui est impacté.
Voilà. Et Jean-Paul Pellerin, justement, on parlait des attestations, le kilomètre en ville n'a rien, enfin, c'est totalement absurde en ruralité, on est d'accord.
Bon, écoutez, vous allez, mettons, chercher, bon, ne parlons pas de champignons, puisque c'est interdit, vous allez chercher du bois, mettons, à l'autre bout du village, les gardes du cardinal arrivent, ils vous coincent 135 euros, ben, vous comprenez pas, parce qu'on vous dit, bon, ben, le reste de l'année, vous pouvez crever tranquille ici, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de toubib, il n'y a pas de téléphone, Internet déconne en permanence. Par contre, là, pour venir vous cueillir dans des situations complètement ubuesques. Mmh. Qu'est-ce que vous voulez que le gars qui va à l'entrée du village, ça risque rien. Donc, alors, et là, on est impacté, on ne comprend pas pourquoi.
Il y a de l'indulgence quand même, ou alors de la compréhension, ou alors non, on applique en fait et on met des amendes.
Ah ben, on met les amendes. La semaine dernière, à Prades, la ville, la sous-préfecture, qui était jusqu'à présent, maire était le Premier ministre, ben, il y en avait partout, c'est-à-dire, bon, après, moi, si vous voulez, bon, il faut qu'ils fassent leur boulot, soi-disant, mais il faut un peu de discernement, quand même, allons, ça arrive un moment où on comprend plus, et en même temps, les gens déposent le bilan, baissent les rideaux, tout ça, ça va pas, quoi. Hein,
oui. Et vous pensez, Jean-Paul Pellerin, parce que vous discutez, vous les voyez, en fait, aussi, que ces petits commerces, là, dans les villages, déjà, c'est pas évident en temps normal, hein, donc, ce que vous disiez, et que là, vraiment, ils ne pourront pas se relever, ou, parce qu'il y a quand même des aides, etc. Est-ce qu'ils pourront réussir, quand même, à continuer.
Vous avez par exemple à 5 ou 6 kilomètres d'ici le seul restaurant-bar qui est ouvert dans le coin en proximité. Ouais. Bon, eh bien, écoutez, cette personne, c'est pas compliqué. Hein, elle arrive plus à payer le loyer. Il y a plus personne qui y passe. C'est fermé et c'est fini. Elle mettra la clé sous la porte, il y a pas, et derrière, c'est, je vous dis, une induction qui disparaît, c'est peut-être des emplois saisonniers, c'est voilà, tout ça, c'est fini. On n'a pas pris la mesure de ce problème-là en ville. Je dis pas que le problème n'existe pas en ville, loin de là. Hein. Ouais. Mais il y aura davantage de circulation. Ma foi, les gens vont revenir, il y a plus de monde, bien entendu. Ici, vous savez, c'est déjà difficile de capter la clientèle parce que elle est rare. Hein. Et si en plus de ça, ben, ma foi, pendant 3 mois, 6 mois, ben, on ne voit plus personne, ben, c'est fini.
Et est-ce qu'il y a autour de vous, Jean-Paul Pellerin, des cas positifs, mais pas simplement que des cas positifs, mais aussi des gens qui ont été, qui ont disparu à cause du Covid ou qui sont hospitalisés ?
Non, alors je vais vous parler très franchement, je ne connais personne. Mais attention, je le répète, je vis dans un village, nous sommes isolés. Voilà, donc après, bon, je ne connais, j'ai entendu dire évidemment
de
mon métier de journaliste, mais ailleurs, si vous voulez, mais ici, on ne peut pas dire qu'il y a un impact, non.
Voilà. Et puis les interactions sont moindres, forcément.
Forcément, on voit moins de monde, bien entendu.
Merci beaucoup, Jean-Paul Pellerin, donc d'avoir été avec nous, écrivain, journaliste. Ben, on parle d'écrivain, on aura Didier Van Kovelaert, qui sera avec nous dans un instant. Merci en tout cas de votre appel, et on comprend à travers vos propos la situation vécue. Alors, c'est dans les Pyrénées-Orientales, mais c'est dans le Massif Central, mais c'est également dans le Lot-et-Garonne.
Ce qui se passe dans les villes n'est pas la même chose.
Bien sûr, dans le centre en fait, de la France, en Bretagne, etc., un peu partout. Dans les villages où on a beaucoup de mal à comprendre, évidemment, aussi qu'on ne peut pas un petit peu bouger pour un minimum de choses, même si on le fait, hein, parce qu'il y a quand même encore, c'est pas un confinement total, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent et qui continuent d'avoir des activités. Allez, dans un instant.
Restez avec nous, dans un instant, Didier Van Kovelaert sera avec nous, écrivain pour ce livre, hein, L'Inconnu du 17 mars aux éditions Albin Michel. À tout de suite.